Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La crise diplomatique entre le Liban et des pays du Golfe, dont l'Arabie Saoudite. Le Premier ministre libanais affirme que son pays restaurera ses relations avec l'Arabie Saoudite. Najib Mikati appelle le ministre de l'Information, dont les propos critiquant la guerre au Yémen a provoqué cette crise, à faire preuve de jugement et à faire passer l'intérêt national en premier. L'armée soudanaise a annoncé ce jeudi la formation imminente d'un gouvernement, une annonce 10 jours après le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan, condamné par la communauté internationale. J'exprime ma totale solidarité au peuple soudanais. Mon vœu le plus cher serait que le processus de transition puisse être repris. Des mots au micro de Radio Orient du président de l'Institut du monde arabe. Entretien avec Jack Lang dans votre édition. L'élection des assemblées populaires communales et de Wilaya en Algérie, un scrutin le 27 novembre. La campagne électorale a débuté ce jeudi. Les journées cinématographiques de Carthage, c'est en ce moment jusqu'à samedi, événement organisé en partenariat avec l'Organisation mondiale contre la torture, représentée à Tunis par Gabriel Reiter. Pour la première fois, des détenus sont autorisés à quitter la prison pour assister au festival. Gabriel Reiter sera l'une de nos invitées. Un candidat à l'exil décédé, un autre porté disparu, plus de 400 secourus en mer hier au large des côtes françaises. C'est arrivé après le naufrage d'embarcations traversant la Manche pour tenter de rejoindre l'Angleterre. Le Premier ministre libanais affirme que son pays restaurera ses relations avec l'Arabie Saoudite. Najib Mikati appelle le ministre de l'Information, Georges Cordaï, à adopter une position qui préserve l'intérêt du Liban. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse dans la capitale après 2 réunions avec le président libanais et le président du Parlement libanais. Avant sa nomination au poste de ministre le 20 septembre dernier, Georges Cordaï a déclaré dans un interview télévisé enregistré en août et diffusé le 25 octobre que les outils du Yémen se défendait contre les attaques de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. L'Arabie Saoudite et 3 autres pays du Golfe ont depuis rappelé leurs ambassadeurs de Beyrouth. L'armée soudanaise a annoncé ce jeudi la formation imminente d'un gouvernement. Une annonce 10 jours après le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan, condamné par la communauté internationale. Sur la situation au Soudan, le soutien du président de l'Institut du monde arabe adressé au peuple soudanais. J'exprime ma totale solidarité avec le peuple soudanais. Mon vœu le plus cher serait que le processus de transition puisse être repris, selon les mots de Jack Lang, suite au coup d'État militaire. Entretien avec Jack Lang.
Le Soudan avait réussi à trouver une voie originale de transition. C'était le fruit d'un compromis entre les militaires et la société. Et nous avions bon espoir que ce processus de transition puisse aboutir à l'instauration d'un régime plus démocratique. Et il faut le dire, pendant cette période intermédiaire, la société soudanaise a fait preuve d'une intelligence, d'une finesse, d'une énergie. Et les jeunes en particulier ont à nombreuses reprises exprimer leur volonté de liberté et en même temps leur sens des responsabilités. Ce qui se déroulait depuis plusieurs mois au Soudan était vraiment remarquable et admirable. Et nous avons tous appris avec consternation que les militaires ont repris le pouvoir, ont organisé un coup d'État, ont mis en prison le Premier ministre civil et à la suite de cela, beaucoup de gens et de jeunes notamment se sont soulevés. Il y a eu d'importantes manifestations. Ces manifestations voulaient être, sont pacifiques. Et malheureusement, le pouvoir a tiré sur la foule et plusieurs manifestants ont été tués. Notre vœu le plus cher serait que le processus de transition démocratique puisse être repris. Cela exigerait de la part des démocraties occidentales et des démocraties des autres pays qu'elles exercent une sorte de magistère fort pour dire à quel point le monde est attaché à un Soudan libre et pleinement maître de lui-même. à l'heure qu'il est, je ne peux pas en dire plus, simplement exprimer notre totale solidarité avec le peuple soudanais, avec les femmes, avec les jeunes, avec toutes ces personnes qui espéraient qu'enfin la dictature connaîtrait ses derniers jours. Et je vous répète, pour nous, pour moi, pour nous tous, c'est une grande tristesse, une grande désolation quand on pense à ces gens extraordinaires que nous avons eu la chance d'accueillir à l'Asie du monde arabe, qui étaient plein d'idées, plein de projets, plein de talents, plein d'énergie. J'espère que l'irréversible n'est pas accompli, ou plus exactement, j'espère que la situation est réversible, et que l'on pourra remettre en route un processus de paix et de dialogue entre la société et les militaires.
Et ce magistère que vous appelez de vos voeux, cette pression de la communauté internationale, vous l'estimez suffisante aujourd'hui ?
Pas facile de l'évaluer. Je n'ai pas le sentiment qu'elle soit assez forte. La France a exprimé avec clarté et fermeté son sentiment, puisque nous avions été, et en particulier le président de la République, à l'origine de cette initiative qui s'est tenue à Paris il y a quelques semaines. Et je crois que le gouvernement français a fait comprendre que à ceux qui tiennent le pouvoir actuellement, que la communauté internationale, et en particulier l'Europe, ne pourrait pas soutenir un tel régime. Alors j'espère que dans les prochains temps, nous allons maintenir cette volonté, cette détermination. Et j'espère surtout que ce que nous disons à l'instant ou à travers d'autres médias parvient jusqu'à ces Soudanaises et ces Soudanais qui vraiment espérer un profond changement après tant et tant et tant d'années de dictature, de corruption, de souffrance, de pauvreté, d'un pays qui est par ailleurs un pays culturellement et humainement magnifique.
Vous présidez l'Institut du monde arabe. Lors des rencontres que vous avez pu organiser autour du Soudan, il a souvent été dit que l'art a été un moyen important pour faire entendre la voix de la révolution soudanaise.
C'est vrai, parce que c'est un pays extraordinairement vivant, pas assez connu à l'extérieur. C'est un pays d'écrivains, d'artistes peintres, de musiciens, de cinéastes même, de femmes et d'hommes de grande culture, aussi bien au nord qu'au sud. Et il est clair que ce qui a pu contribuer à créer cette conscience collective au Soudan est venu notamment de la jeunesse et des créateurs. Et j'espère que cette conscience collective est durable, profonde, et qu'elle permettra de faire reculer les militaires.
C'est un pays auquel vous êtes particulièrement attaché. C'est pourquoi l'Institut du monde arabe a toujours accordé une place importante au Soudan.
Importante, mais peut-être pas assez encore. Si nous pouvions prendre d'autres initiatives, nous y réfléchissons, nous le ferions. Car encore une fois, le Soudan est un pays admirable par son peuple et par son histoire et par sa culture.
Le président de l'Institut du monde arabe, ancien ministre notamment de la culture, Jack Lang. La campagne pour l'élection des assemblées populaires communales et de Wilaya a débuté ce jeudi en Algérie. C'est la dernière étape pour parachever le processus d'édification des institutions de l'État. La campagne électorale s'étalera sur 3 semaines. Les élections sont prévues le 27 novembre prochain. L'armée israélienne a démoli à l'aube une mosquée et 2 installations agricoles dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le président du conseil local de Douma, au sud de Naplouse, affirme que les forces israéliennes ont fait incursion dans le village et pris d'assaut le quartier d'Al-Shakara pour procéder à la démolition de la mosquée. Le ministère palestinien des Affaires religieuses a condamné cette démolition et déplore, selon ses mots, une atteinte odieuse contre les lieux saints et religieux des musulmans. La reprise des négociations sur le nucléaire iranien le 29 novembre prochain à Vienne, un compromis pour sauver l'accord de 2015, censé empêcher Téhéran d'accéder à la bombe atomique est possible rapidement à condition que l'Iran soit sérieux dans ses intentions, c'est ce qu'indique la diplomatie américaine. C'est le plus grand festival du cinéma tunisien. Les journées cinématographiques de Carthage, c'est en ce moment, jusqu'à samedi, 45 pays arabes et africains participent à diverses compétitions avec 57 films présentés, un événement organisé en partenariat avec l'Organisation mondiale contre la torture, représentée à Tunis par Gabriel Reiter. Cette année, pour la première fois, des détenus sont autorisés à quitter la prison pour assister au festival. Gabriel Reiter.
C'est déjà la 7e édition des journées cinématographiques de Carthage dans les prisons. C'est une très belle coopération entre les CCC, le Comité général des prisons et de rééducation, le CGPR, et l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture. C'est en fait en 2015 qu'on a commencé un peu par le hasard de tenter l'eau avec la température, je pense on dit plus tôt, avec les CCC, dans quelle mesure on pourra les inviter, amener dans les prisons. Les CCC, comme vous le savez bien, sont très ouvertes à toutes sortes d'engagements avec des différents segments de la société. Et ils étaient tout à fait d'accord.
Les GCC, pour le préciser, il s'agit des journées cinématographiques de Carthage.
Exactement. Alors, on les a approchés, autant que OMCT et CGPR. Et depuis, on amène chaque année le festival dans les prisons. Mais c'est pas seulement une projection des films qui sont aussi en concours, en compétition, lors du festival de cette semaine, qui tient bien sûr de 30 octobre jusqu'à au 6 novembre, mais c'est en fait toute une équipe qui va avec. Il y a le réalisateur, la réalisatrice et les acteurs qui accompagnent en fait le film pour être après dans un débat avec les détenus. Et là, j'ai pu assister par exemple à l'ouverture qui a eu lieu le dimanche, où il y avait un film égyptien, Captain Sattar, qui en fait parle d'une histoire de deux réfugiés syriens qui ont le rêve de devenir des footballeurs professionnels. Et le film parle de leur parcours et les rêves qui se réalisent ou pas. Ça a énormément parlé à l'audience, aux détenus. Il y avait un applause très importante. Et on a eu des propos après entre les détenus et le réalisateur qui était présent, pour exprimer qu'ils se sont pu identifier énormément avec cette idée d'être enfermé, mais quand même avoir des rêves. Il faut pas baisser les bras et essayer de vivre ce moment. Alors là, on a vraiment tout à fait réussi d'avoir ce moment de détente. L'idée est d'amener aux détenus un accès aux actions culturelles, à la culture toute courte, et avec un partenaire comme le CCC, c'est tout à fait réalisable.
Une centaine de détenus peuvent assister aux projections, mais quelques 14 000 d'entre eux voient le cinéma venir à la prison. Des films sont projetés dans les prisons, et c'est aussi l'une des particularités.
Tout à fait. Par exemple, à l'ouverture, on était quand même avec à peu près 150 détenus de la prison de Oudna et la prison de Manouba, et en même temps, le film est projeté dans le chambré où il y a à peu près 14 000 détenus qui ont aussi la possibilité de suivre en fait les films. On est chaque jour dans une autre prison. Une autre nouveauté cette année, c'est que normalement on va aussi dans les centres de rééducation pour mineurs. Mais cette année, c'est les mineurs qui vont en fait sortir des établissements pénitentiaires pour assister au lieu des CCC à une projection, et ça sera en fait demain dans la Cité de la Culture, que en fait les jeunes ont l'occasion de vraiment participer aussi aux CCC, où les CCC ont lieu. Autre chose, cette année aussi, il y a en fait une équipe de détenus qui accompagne toute cette caravane de CCC dans les prisons, pour documenter l'événement. Et ils ont déjà préparé en fait un trailer qui était diffusé lors de l'ouverture, et là ils sont en train de préparer une documentation pour faire profiter un large public de ces moments en prison.
C'est un bienfait pour l'ensemble de la société tunisienne, cette possibilité-là?
Oui, je pense très fortement, parce que, en fait, c'est dans les deux sens. C'est dans un sens, on amène un festival dans les prisons, et dans l'autre sens, on amène toute une réflexion sur une partie de la société vers le public qui très souvent oublie qu'il y a des co-citoyens en prison.
Et cela permet aussi cette médiatisation, le fait que ces détenus puissent participer à ce festival, de changer l'image des détenus en Tunisie.
Ben, bien sûr, pas seulement des détenus, aussi de l'administration pénitentiaire, parce qu'il y a énorme effort fait pour que il y a des actions de réhabilitation, il y a une grande ouverture et volonté de la part de l'administration de s'engager dans les actions culturelles ou de réhabilitation.
Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui de la situation des prisons en Tunisie?
Les prisons en Tunisie, si je peux le dire comme ça, souffrent énormément d'une surpopulation. Et ça a ses racines dans une justice qui est défaillante. Plus que la moitié des détenus sont en détention provisoire, ça veut dire sans jugement. Tout d'abord, c'est un taux trop élevé, mais aussi, bien sûr, laisse l'individu dans un moment d'attente beaucoup trop important. Et comme la justice est très lente, il y a bien sûr des prisons qui sont pleines. Je pense qu'on peut dire que normalement, il y a entre 22 000 et 24 000 détenus en moyenne dans les prisons qui sont très souvent libérés suite aux grâces présidentielles. Mais la capacité des prisons en soi-même, c'est pour 17 000 personnes. Alors on peut s'imaginer comment quelques prisons sont vraiment surpopulés.
Gabrielle Reiter, présidente du bureau de l'Organisation mondiale de la torture à Tunis. Un candidat à l'exil est décédé, un autre a été porté disparu et plus de 400 ont été secourus en mer hier au large des côtes françaises. C'est arrivé après le naufrage d'embarcations traversant la Manche pour tenter de rejoindre l'Angleterre. Les opérations de sauvetage se multiplient ces derniers jours au large du Nord et du Pas-de-Calais. Dans la nuit de lundi à mardi, 292 migrants avaient été récupérés en mer lors de 7 opérations distinctes. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, les crises diplomatiques au Proche-Orient, le Liban et la Turquie en première ligne, les invités d'Alexis Bachelet, Maïa Kadra, journaliste et enseignante, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, et Didier Billon, directeur adjoint de l'Institut Iris, auteur de La Turquie, un partenaire incontournable aux éditions Erol. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient, et un très grand merci pour votre fidélité.